Cours d'introduction à la philosophie politique par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 mai 1999 à Saint-Jodard.
J'ai pas reçu beaucoup de lumière sur y a-t-il un principe propre en philosophie politique. J'espérais recevoir de vous des lumières. Au moins, j'ai terminé la dernière fois en vous posant la question. Y a-t-il un principe nouveau qui me permet d'établir, autrement dit, est-ce que la vie politique, va mettre quelque chose de nouveau pour ma finalité propre? C'est très important. C'est très délicat. Vous voyez, dire alors qu'il n'y a pas de philosophie politique, c'est très ennuyeux. C'est quand même, il y a une réflexion philosophique sur l'homme, et l'homme implique cette dimension communautaire, animale, politique. Alors, Aristote a très bien senti ça, parce qu'il était en phase de la politique de Platon. Quand vous êtes en phase de la politique de Platon, c'est pour ça qu'au fond, philosophiquement, il faudrait commencer le cours de philosophie politique par le livre de la politique de Platon, et voir que c'est exagéré. C'est impossible, ça. Mais où est l'erreur de Platon? Parce que on y revient tout le temps, vous savez, à Platon. Et au fond, le socialisme est une forme de platonisme. De montrer que l'homme politique, ben oui, c'est là. Ou c'est l'homme dans toute sa dimension. Et que c'est important de saisir ça. Et qu'il y a diverses formes de gouvernement. Alors, regardons, puisqu'il n'y a pas de finalité propre. Ça, c'est net. La politique ne me donne pas un bonheur humain parfait. Qu'est-ce qui permet la dimension politique? C'est la prudence, c'est pas la sagesse. Il n'y a pas une sagesse politique. C'est ennuyeux. Il n'y a pas de sagesse politique. Il y a une sagesse pratique. Prudentielle. Alors oui, il y a une prudence communautaire. Il y a une prudence monastique et une prudence politique communautaire. Monastique prisant monos, seul, personne, la personne humaine. Alors, il faut regarder l'ordre génétique. C'est pour ça qu'Aristote commence comme ça. Regardez l'ordre génétique. Comment se constitue un aspect politique? Oui. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que ça montre qu'au fond, la philosophie politique ne peut pas se construire indépendamment de l'éthique. Aristote a très bien saisi. C'est comme une modalité particulière, on va le voir, une modalité particulière de l'éthique. D'où la tentation, et c'est la tentation de Platon, de mettre la politique en premier lieu. Si elle apparaît comme nécessaire pour compléter l'éthique. Alors la mettre en premier lieu. Mais il faut toujours, en philosophie, toujours comprendre les erreurs. Et on comprend l'erreur quand on a saisi la vérité. Bien. L'éthique personnelle implique l'amitié. C'est le fondement radical de l'éthique, c'est l'amour d'amitié. Donc, l'éthique implique nécessairement la communauté. Puisque l'amitié implique de vivre avec son ami. Alors, vous voyez, ces lois qui sont en train de se faire, qui au fond ne veulent plus regarder la famille comme le fondement propre de la politique. Il y a plusieurs fondements maintenant politiques. Ça fait que pratiquement, la politique ne va plus être qu'utilitaire, et uniquement utilitaire. Utilitaire au point de vue économique. Il faut s'unir pour pouvoir construire des avions, ça coûte assez cher. Il faut s'unir pour pouvoir maintenant élever des hôpitaux, ça coûte très cher. Il faut, et ainsi de suite. Et on tend vers le point de vue Platon, utilitaire. Platon, il y avait la contemplation. Ça, c'est complètement supprimé, puisque Dieu, on s'en occupe plus. Alors, vous regardez le point de vue génétique. Dans le point de vue génétique, c'est sûr que nous sommes nés dans une famille. La famille est encore, pour le moment, le milieu normal de la naissance. Mais on tire dessus, hein, dans tous les sens. Et on essaie de voir s'il n'y a pas possibilité d'une procréation sans la famille. C'est dans l'air, ça. C'est plus que dans l'air. C'est déjà la réalisation partielle. Mais laissons cette erreur de côté. Mais c'est quand même très important de voir que, selon l'aspect génétique, la famille est première. Si pas né d'une mère et d'un père, je peux encore dire ça, je n'existerai pas. Donc, la famille apparaît essentielle. Toucher à la famille, c'est toucher à l'origine même de l'humanité. La famille a ceci de très particulier, c'est qu'elle est fondée sur un amour humain. Un amour qui implique un choix, mais qui est avec une finalité humaine, naturelle, la personne humaine. Et la procréation. La famille a donc un fondement naturel. La famille n'est pas purement conventionnelle. Elle est fondée sur l'amour naturel de l'homme pour la femme et leur union peut être féconde. Le ton de leur corps peut impliquer la fécondité. Il y a donc là un fondement naturel et une finalité. L'amitié. Alors vous voyez, nous retrouvons, et c'est ça qui est très important, nous retrouvons comment l'éthique fondamentalement se fonde sur l'amitié, comment la politique se fonde sur l'amitié. Les deux axes. L'axe personnel, l'axe politique. Et c'est peut-être ça qui est le plus important à voir. Une éthique qui ne se fonde pas sur l'amitié, ne se fonde pas sur le bonheur, elle ne se fonde pas sur la finalité. Et toutes les erreurs qu'on aura sur l'éthique vont se répercuter sur la politique. Ça, je crois que ça, c'est capital à le comprendre. La famille est fondée sur l'amitié. Et la famille étant fondée sur l'amitié, la famille représente une communauté qui demande de s'agrandir. C'est plus seulement deux, c'est très vite trois. Et après, le nombre peut augmenter. Alors, cette première constatation montre qu'il y a là un fondement naturel et une finalité propre. Donc un principe propre. La finalité. On s'aime d'un amour d'amitié. Et on s'aime en vue de la procréation. Pour la procréation. Quel est après le passage de la famille à la politique? C'est important. La famille, elle, est commandée par l'amour d'amitié. Ça, une famille est unie tant que l'amour d'amitié de l'époux et d'épouse existe en acte. Le jour où l'amour d'amitié de l'époux et d'épouse disparaît, la famille a en germe la division. Il y a le virus de la division. Et de la corruption de la famille, par le fait même. La séparation de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse, est une corruption de la famille. Mais la mort n'est pas une corruption de la famille, mais le divorce, oui. Et ça, c'est important. C'est pour ça que l'Église interdit le divorce. Et si de fait, au point de vue politique, on l'a accepté, c'est que la politique, elle, n'a plus le sens de la finalité. Et elle met la liberté au-dessus. L'erreur de Descartes. Descartes met la liberté au-delà de l'amour d'amitié. Et ça aboutit fatalement à ça. Si vous mettez la liberté au-delà de l'amour d'amitié, vous ne pouvez plus sauvegarder la fidélité de la famille. le bien-être des enfants ne suffit pas. Il faut que ce soit l'amour d'amitié entre les époux. Il y a là quelque chose qui me semble très important à voir. Alors, pour Aristote, le passage de la famille à la cité, c'est une nécessité d'ordre. C'est pour que les choses soient ordonnées. Parce que la multiplicité engendre l'anarchie, le désordre, quand il n'y a pas une orientation profonde des membres. Vous voyez, ce n'est pas la politique qui donne la fécondité. Non, c'est la nature. Ce n'est pas la politique qui donne l'existence d'un être nouveau. Non. La politique peut simplement ordonner. Elle donne un ordre. Alors, elle est de l'ordre, je dirais, du conditionnement des différentes familles qui s'unissent pour pouvoir mieux vivre. Donc, le principe qui apparaît, c'est de pouvoir mieux vivre. Mieux vivre n'est pas un principe propre, c'est de l'ordre du conditionnement. La manière dont on va exister, dont on va vivre. Et on voit que s'il y a un ordre, si on accepte un ordre, ce conditionnement pourrait être plus efficace, pourrait être plus vrai. Donc, on voit bien que c'est une exigence pour mieux vivre, pour mieux atteindre sa finalité, pour que l'amitié puisse progresser et demeurer. C'est à cause de ça que le point de vue politique apparaît comme une nécessité. Mais cela repose fondamental sur l'amour d'amitié. Et la fécondité elle-même repose fondamentalement sur l'amour d'amitié. Si donc vous voulez la fécondité sans l'amour d'amitié, qu'est-ce qu'on va avoir? Bonne interrogation. Et le philosophe peut faire comprendre que, puisque l'âme spirituelle est créée par Dieu, dans la procréation humaine, il y a donc un lien, une coopération des époux avec le Créateur. S'il y a un lien des époux et du Créateur, cela montre que cette amitié du mariage est voulue par Dieu. Elle n'est pas conventionnelle. Elle s'enracine dans l'être. Elle fait que il y a donc là un fondement métaphysique qui fait qu'au fond, l'homme n'a pas le droit l'homme n'a pas le droit de modifier cela. C'est la fécondité de l'époux et de l'épouse à travers et dans leur amitié qui donne à la famille un caractère sacré que le philosophe peut atteindre dans la mesure même où le philosophe étudie ce qu'est l'âme humaine. Si le philosophe ne l'atteint pas, alors ça, évidemment, la famille et l'union de la famille est conventionnelle, comme, et on la ramène aux autres unions conventionnelles. Le caractère sacré de la famille disparaît. Et si le caractère sacré de la famille disparaît, je crains que cela supprime le point de vue politique. Parce que le point de vue politique ne pourra plus se fonder que sur un aspect utilitaire. C'est utile de faire une association. Ce sera une association, comme toutes les autres associations, donc purement utilitaire. Par le fait même, le point de vue politique perd son caractère spécial qui légitime une philosophie particulière et je ne suis plus qu'en face d'une communauté humaine conventionnelle. Il n'y a donc plus du tout de philosophie possible. Il y a uniquement le point de vue de l'évolution. C'est l'évolution qui remplace la finalité. Quand il y a la finalité, il y a besoin d'évolution. Alors, on voit bien, là, comment ce point de vue purement conventionnel de la famille va supprimer tout caractère propre à la politique. Alors, je peux donc dire que s'il n'y a pas de principe propre pour édifier une philosophie politique, comme il y a un principe propre en éthique. Il y a cependant un fondement sacré que l'homme doit garder comme un devoir et une confiance merveilleuse de Dieu vis-à-vis de lui. Et il y a la finalité éthique qui est présente et qui est la mesure fondamentale du point de vue politique. Si je vais contre cela, je me détruis moi-même politiquement. Si je n'admets pas ce principe de finalité de l'amour d'amitié. Si au contraire j'accepte que ce principe de finalité est présent, je vois que, au point de vue politique, je mets en lumière la grandeur de l'amitié et je vois que le point de vue politique doit permettre un épanouissement, quelque chose de mieux, qui va plus loin, grâce à la politique. Il me semble que c'est cela, et cela seul, qui me permet d'édifier une vraie philosophie politique qui a ses critères de vérité. L'amour d'amitié et la fécondité. Parce que c'est à cause de la fécondité que cette unité, que cette famille prend toute sa force. Bon, réfléchissez beaucoup à ça pour voir si on peut vraiment établir une philosophie politique à partir de là. Et je vois par le fait même, voyez, combien la philosophie politique est j'allais dire, est vulnérable et délicate. Puisque elle n'est fondée naturellement qu'à partir de l'amour d'amitié et la fécondité. Elle n'a pas d'autre fondement. Et donc, le principe éthique de l'amour d'amitié, qui est d'une certaine manière au-delà de l'éthique, fonde la politique. Et cette amitié dans le mariage implique la fécondité. Il y a là pour nous quelque chose qui peut rester très très lumineux. Est très fort. Il faut tout le temps ramener ça, voyez. On voit tout de suite que si, au point de vue principe propre, la politique est très vulnérable, parce que elle ne peut exister qu'avec l'action propre de l'homme. Et il y a une petite analogie peut-être qui serait intéressante à faire entre le temps et la politique. Nous avons vu à propos de l'éternité, le temps, et c'est Aristote qui le dit, le temps exige le raisonnement, l'intelligence humaine, la raison humaine, puisque j'unis le passé et le futur, par l'instant présent, et je les ordonne. C'est l'intelligence qui prend possession de la succession des événements et qui établit dans cette succession des événements un ordre. Un ordre, le passé et le futur. Il y a un ordre qui s'établit. Et c'est l'intelligence qui fait cet ordre. Vous voyez, la politique n'existe que s'il y a un ordre dans les diverses familles, dans les diverses petites communautés humaines. Et cet ordre, il n'est pas directement fondé dans la nature. C'est l'intelligence qui le fait en vue d'un meilleur, un amour meilleur, en vue d'une stabilité meilleure, en vue d'atteindre davantage la finalité. Le temps, c'est pour un ordre. La politique, c'est pour un ordre qui apporte un plus. C'est pour ça qu'un des points de vue très importants du législateur, c'est de maintenir l'espérance. Aller vers quelque chose de plus. si l'espérance d'un pays disparaît pour tel ou tel facteur, telle ou telle raison, telle ou telle loi, l'État, à partir de ce moment-là, a peur du futur. Et vit dans la crainte du futur. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus d'ordre. C'est l'anarchie. Et ça, c'est un fait. Donc, vous voyez, la politique, c'est quand même quelque chose que l'homme fait. Comme l'homme fait le temps. Grâce au temps, l'histoire existe. Grâce à la raison humaine qui met l'ordre entre les différentes petites communautés humaines et différentes amitiés humaines, la politique existe. Mais elle est faite par l'homme, formellement, comme le temps. C'est donc important de saisir cela pour voir que c'est la politique qui a le plus de peine de rester réaliste. La politique, très facilement, s'idéalise. Parce que c'est l'homme qui l'a fait. Il y a là, je crois, un phénomène extrêmement important à saisir pour nous. Et un petit peu comme l'Église. L'Église implique le concours de l'homme. S'il n'y avait pas de concours de l'homme, dans la charité, il n'y aurait pas d'Église. S'il n'y avait pas la réflexion de l'homme sur la famille et sur les liens entre familles, il n'y aurait pas de politique.